Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents vraiment intéressants qui essaient de répondre à une vaste question. Comment notre monde évolue? Comment il se développe? Et surtout, pourquoi de façon si inégale?
Exactement. L'objectif, c'est un peu de décortiquer tout ça, de comprendre les grandes dynamiques.
Pourquoi certains pays, certaines populations avancent plus vite que d'autres.
Et voilà. Et comment on arrive à mesurer ces écarts, en fait? C'est ce que ces textes nous aident à voir plus clair.
Alors, au programme, on va regarder les progrès, bien sûr, mais aussi les fractures qui demeurent. Entre le Nord et le Sud, mais pas seulement.
Non, à l'intérieur même des pays, on le verra.
Et puis, comment on mesure tout ça? Quels outils? Et qui sont les acteurs qui tentent d'agir? Allez, on y va. Bon, premier point qui ressort fort des analyses, c'est la baisse de l'extrême pauvreté. C'est assez spectaculaire.
Ah oui.
On parle des personnes vivant avec moins de 2,15 dollars par jour. Bah, leur proportion serait passée de quasiment 40% en 1990 à moins de 9% aujourd'hui.
C'est énorme, effectivement.
Oui, c'est colossal. Et les textes mettent en avant le rôle de pays comme la Chine, l'Inde.
Oui, ce sont des progrès indéniables, il faut le dire. Mais attention, les documents insistent aussi sur un point important. Ce rythme, il a tendance à ralentir.
Ah bon? Depuis quand?
Surtout depuis 2019, en fait. À cause des crises successives. La pandémie, les conflits, le changement climatique aussi.
D'accord.
Du coup, il reste quand même près de 700 millions de personnes dans cette situation d'extrême pauvreté. Et elles sont concentrées où, d'après vous?
J'imagine en Afrique subsaharienne, principalement?
En grande partie, oui. Et au-delà de ce seuil critique, les écarts de vie restent gigantesques. Si on compare l'espérance de vie, par exemple, ou le nombre d'années passées à l'école,
oui.
Ben, y a un monde entre un pays comme la Norvège, avec un IDH très élevé, et un pays comme le Niger, à l'autre bout du spectre. C'est un vrai gouffre.
Ce gouffre, on appelle souvent la fracture nord-sud, classiquement.
Oui, mais les textes nous invitent à complexifier un peu ça. On devrait plutôt parler des nords au pluriel et surtout des suds.
Ah oui, pourquoi des suds?
Parce que la situation est très hétérogène. Il n'y a pas un sud. Vous avez d'un côté des géants qui émergent, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.
Oui, des économies dynamiques.
Voilà, avec une croissance rapide, mais souvent, paradoxalement, avec d'énormes inégalités à l'intérieur de leurs propres frontières. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés.
C'est une catégorie officielle, ça?
Oui, définie par l'ONU, 47 pays, très vulnérables, dont une majorité écrasante, 33, se trouvent en Afrique subsaharienne. Donc on voit bien, ce n'est pas du tout uniforme.
Et ce qui est frappant, c'est que ces inégalités, comme vous le disiez, elles ne s'arrêtent pas aux frontières.
Absolument pas. Elles traversent les pays. C'est un point crucial que soulignent les documents.
C'est-à-dire?
Ben, on voit des écarts considérables entre régions. Pensez à la Chine, le littoral hyper développé face à l'intérieur beaucoup plus rural et moins riche.
Mmh.
Ça existe aussi dans les villes. Dans les pays riches, on a des quartiers défavorisés, parfois très marqués. Et dans les pays du Sud, on a le phénomène des bidonvilles, immenses parfois.
Et il y a une autre inégalité qui traverse tout ça.
Oui, l'inégalité de genre. Les textes le rappellent. Partout dans le monde, les femmes sont en moyenne plus vulnérables à la pauvreté. Elles ont moins accès aux mêmes chances, notamment en matière d'éducation ou d'emploi. C'est une constante, malheureusement.
Face à ce tableau complexe, comment on s'y prend pour mesurer le développement? On pense tout de suite au PIB, la richesse produite.
Oui, le fameux PIB. Mais les textes montrent bien que c'est insuffisant. La richesse économique, ça ne dit pas tout sur le bien-être réel des gens.
Alors, quoi d'autre?
C'est là qu'intervient l'IDH, l'indice de développement humain. Créé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, déjà en 1990.
Ah oui, l'IDH.
Lui, il est intéressant parce qu'il combine trois dimensions. Le revenu, bien sûr, mais aussi la santé, mesurée par l'espérance de vie à la naissance, et l'éducation, via la durée moyenne de scolarisation. C'est une approche plus globale.
Plus humaine, en quelque sorte.
C'est l'idée. Et pour affiner encore, surtout dans les pays du Sud, pour voir les privations très concrètes, accès à l'eau potable, à une nutrition suffisante, à un logement décent, etc., on utilise aussi l'IPM, l'indice de pauvreté multidimensionnelle.
D'accord. Et dans les pays riches comme chez nous en France, comment on mesure la pauvreté? Ce n'est pas le seuil de 2,15 dollars par jour, j'imagine.
Non, effectivement. Là, on parle plutôt de pauvreté relative.
Relative?
Oui, relative au niveau de vie moyen du pays. On ne fixe pas un seuil absolu en dollars, mais on regarde combien de personnes vivent avec un revenu inférieur à un certain pourcentage du revenu médian national.
Par exemple?
En France, le seuil souvent utilisé, c'est 60% du revenu médian. Être en dessous, c'est être considéré comme pauvre. Et ça concerne quand même une partie non négligeable de la population, autour de 15% dans les pays des Nord. La pauvreté prend un autre visage, mais elle est bien là.
Compris. Alors, qui agit ou essaie d'agir sur ces dynamiques ? Les États, j'imagine, ont un rôle central.
Oui, les États sont évidemment des acteurs majeurs. Mais comme le montrent bien les textes, ils n'ont pas tous la même approche, loin de là.
C'est-à-dire, il y a différents modèles ?
Tout à fait. Certains pays ont misé sur le développement de leur marché intérieur. D'autres se sont tournés très largement vers l'extérieur, vers les exportations. C'est le modèle des dragons asiatiques, comme la Corée du Sud, Taïwan.
Ah oui, le modèle extraverti.
Exactement. D'autres encore sont très dépendants de leurs ressources naturelles, le pétrole, les minerais. On parle parfois d'économie de rente. Et bien sûr, beaucoup de pays ont des stratégies mixtes. Les choix politiques pèsent lourd.
Et en dehors des États, qui d'autre intervient ?
Il y a les grandes institutions internationales. On a cité le PNUD, qui mesure mais qui fixe aussi des objectifs mondiaux.
Les ODD, c'est ça ? Objectifs de développement durable.
Précisément, les ODD à atteindre d'ici 2030. Ces organisations promeuvent aussi des droits fondamentaux, comme l'accès à l'eau, à l'alimentation. Et puis, il ne faut pas oublier les ONG.
Des organisations non gouvernementales.
Oui, comme Médecins du Monde, Action contre la faim et tant d'autres. Elles jouent un rôle absolument crucial sur le terrain pour l'aide directe, mais aussi pour alerter l'opinion publique, faire pression.
Donc si on essaye de synthétiser ce qu'on a vu à travers ces documents, on a une image assez nuancée, non ?
Oui, très.
Des progrès réels, surtout la baisse de l'extrême pauvreté historique, mais qui semble marquer le pas. Et surtout, des inégalités qui persistent, qui sont multiformes entre pays, à l'intérieur des pays, entre hommes et femmes.
C'est ça. Le développement, ce n'est clairement pas une route toute tracée, ni la même pour tout le monde.
Pas un long fleuve tranquille ?
Pas du tout. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour aller plus loin, qui est un peu en filigrane dans ces textes. On voit que les États font des choix de développement différents.
Oui.
Mais au-delà des grandes tendances mondiales qu'on mesure avec l'IDH ou le PIB, comment est-ce que ces choix politiques très concrets, faits par un gouvernement donné, façonnent au quotidien les inégalités sur son territoire ? Et quelles conséquences ça a à long terme pour les gens qui vivent ?
C'est une excellente question pour continuer à réfléchir.
Voilà, une piste pour creuser encore un peu sujet passionnant et complexe.